Dans Hébreux chapitre 13, alors pour le repas du Seigneur, j'ai l'impression qu'on ne va pas tout couvrir en un message, mais c'est pas grave. Le prochain repas du Seigneur, j'en couvrirai une autre partie. Je veux qu'on considère des choses qui ont vraiment rapport à justement le fait qu'on est un corps. Vous savez, le repas du Seigneur, on se remémore, hein? Le corps de Christ, on s'en versait. Mais parce que Christ a accompli l'œuvre du calvaire, bon, on est maintenant un corps, on est un en Jésus-Christ, on est le corps de Christ, et ici c'est une représentation locale de cela. Et il y a des bonnes choses vraiment à apprendre à ce sujet-là. Dans le Nouveau Testament, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce soir. On va juste commencer en lisant les versets, vous êtes dans Hébreux 13, versets 20 et 21. « Que la paix de Dieu, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, c'est une de ces phrases qui termine, c'est pas la toute fin de l'épître, mais c'est vraiment vers la fin. Et je veux juste qu'on regarde ici quand ça dit dans l'expression « vous rendre capable ». En plus, on parle du Dieu Tout-Puissant, que Dieu est capable, mais Dieu, dans sa capacité, Dieu, dans sa toute-puissance, il nous rend capable aussi. Et le mot qui est utilisé ici pour rendre capable, c'est le mot « katharizo ». Et on va en parler plus tantôt, c'est le mot grec ici qui est traduit pour ça. Puis on va parler de ça ce soir dans le contexte d'une église locale comme la nôtre, mais avant, je veux vous faire remarquer quelque chose. Dans le livre de Romains, de 1 Corinthiens, puis de Éphésiens, il y a une unité incroyable entre trois thèmes qui sont présentés dans chacun. Okay? On ne va pas aller voir toutes les références, ça serait trop long, mais écoutez, vous allez voir. Il y a une continuité, il y a une harmonie qui est là vraiment dans les différentes écritures dont je vais vous partager. D'abord, OK, quand on parle d'unité spirituelle, ces trois passages-là mettent toute l'emphase sur le fait, c'est qui est-ce qui donne l'unité spirituelle à l'Église? Le Saint-Esprit. OK? Donc, quand on parle d'unité spirituelle, on parle du don du Saint-Esprit. Par exemple, OK? Si on les met toutes côte à côte, il y a Romains 12, 1 Corinthiens 12, puis Éphésiens 4. OK? Bon, mais au début de chacun de ces chapitres-là, ça nous parle d'unité spirituelle. OK? Dans Romains 12... Bon, ça parle, il y a les deux premiers versets qui parlent du discernement spirituel, mais après ça, ça parle que on a une diversité, mais on est un en Jésus-Christ. Romains 12, 3 à 5. Dans 1 Corinthiens, c'est encore plus développé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les 13 premiers versets parlent de ça, puis comme il y a diversité de dons, mais un seul esprit, puis on est un corps, OK? Non, ça parle de cette unité-là par le Saint-Esprit. Et évidemment aussi, dans Éphésiens chapitre 4, hein, ça dit « Conservez l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » OK? Parce que les six premiers versets nous parlent de toutes les implications de cette unité, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et la première chose dans cette marche, c'est l'unité spirituelle. OK? Mes amis, pour une église comme la nôtre, c'est extrêmement important. Pour un temps comme le nôtre, c'est encore plus extrêmement important. Savez-vous ce que Satan est en train de faire au niveau national, au niveau des familles et au niveau des églises? Il sème la division. On est de plus en plus en train d'avoir une société qui... Il y a un clivage. Regardez aux États-Unis, il y a eu les tensions raciales et tout ça, mais aussi avec tout ce qu'on vit, il y en a qui sont... On avait déjà parlé au début, il y en a qui sont plus d'un côté... prudent, d'autres plus d'un côté moins prudent ou plus, bon, faut pas s'en faire pour tout ça. Savez-vous c'est quoi l'unité là-dedans? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi qui est? Le Saint-Esprit, il nous dit d'avoir la foi dans l'œuvre complète de Christ. Ça, c'est l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit, c'est lui qui l'a créé, puis c'est christocentré. Pourquoi avoir peur? On veut pas vivre dans la peur, on veut vivre dans la foi au Seigneur Jésus. Et cette unité-là, ce qui nous unit ensemble, c'est l'œuvre parfaite de Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous amène. Dieu a envoyé son Fils et le Saint-Esprit nous ramène constamment à la croix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le repas du Seigneur aujourd'hui. Le repas du Seigneur, c'est une manière de se réunir spirituellement, là où c'est le plus important de se réunir spirituellement, au pied de la croix. Se rappeler l'œuvre de Christ. Christ veut qu'on se rappelle de ça parce que c'est la centralité de l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Pourquoi il y a une Église? Parce que Christ est mort pour l'Église, parce que Christ bâtit son Église. OK? L'unité. Maintenant, ça n'est pas OK. L'unité, quand on pense à l'unité, pensons le don du Saint-Esprit. Okay? Il y a un seul esprit. C'est ce qui crée l'unité. Okay? Parce qu'il y a un seul esprit qui a un même but et il poursuit ça avec les personnes dans l'Église. Maintenant, ces mêmes passages, quand on continue à lire, whoop, on voit quelque chose de bien différent. Au lieu de parler d'unité dans la suite des choses, ça parle de diversité. Par exemple, dans Romains, aussitôt qu'il finit de parler d'unité, il parle des différents dons spirituels. OK? Même chose dans Éphésiens, dans Corinthiens. OK? Il parle des différents dons spirituels. Puis aussi, dans Éphésiens, la même chose. Donc, quand on parle de diversité, on parle de dons du Saint-Esprit, mais au pluriel. Les dons du Saint-Esprit, un même esprit a donné différents dons. C'est ce qui fait la diversité. OK? Et ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que la diversité, c'est pas de la disparité ou de la. C'est pas de la division. C'est une complémentarité. Parce que, par exemple, dans Corinthiens, c'est amené avec l'image d'un corps. Puis justement, ça dit, ben là, dans un corps, il y a certains membres qui ont certaines fonctions, mais chacun a besoin de l'un de l'autre. C'est, un corps est varié, un corps a une diversité, mais ça sert tout à l'unité. OK? Il y a différents dons, mais un seul esprit. Puis tout ça, ça sert pour l'œuvre de Dieu. OK? Puis la même chose dans Éphésiens, quand ça en parle, c'est que là, c'est plus des dons qui sont des fonctions. Dieu a donné à l'Église les apôtres, les prophètes, les pasteurs et docteurs. Et tout ça, c'est pour, dans la diversité de ces dons-là, servir le corps de Christ. Maintenant, on a les deux éléments. Okay? L'unité dans la diversité. Mais si on est réaliste, et quand on regarde ces épîtres-là, okay, ces chapitres-là en particulier, on voit que presque unanimement, il y a un contexte, il y a une implication de il y a des problèmes avec ça. Quand on lit dans Romains 12, on voit différents dons, puis il y en a que ça frotte. Hein? Lui qui a le don de miséricorde, souvent il peut frotter avec celui qui a le don de prophète, okay? De proclamer la parole, parce qu'il y en a que la compassion, c'est ce qui le motive, puis l'autre, c'est la vérité, puis il faut. Okay? Puis des fois, ces deux-là, ils peuvent un peu avoir certaines difficultés à s'entendre. Okay? Dans Corinthiens aussi, on voit toute la question, c'était une église qui était, mettons, il y avait certains problèmes, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans l'église. Et dans Éphésiens aussi, quand ça parle des dons, on a tout le temps la même phrase, c'est dit, c'est arriver à l'unité, à la stature parfaite de Christ. La clé pour qu'on ait l'unité dans la diversité, c'est la maturité. Non seulement on a besoin du don du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit dans une église comme la nôtre, mais on a besoin des grâces, les différentes grâces de Dieu ou les grâces du Saint-Esprit. La grâce de Dieu qui va nous donner. Puis quand on parle de la grâce du Saint-Esprit, il nous donne la maturité puis le fait d'être justement, d'user de grâce les uns envers les autres. OK? Que chacun, dans dans nos relations avec les autres, qu'on use de maturité, d'amour, de patience, le fruit de l'esprit. Parce que c'est ça qui va faire passer. Avec l'œuvre de Dieu, tout ce qui peut être impliqué, c'est la maturité. OK? Maintenant, là, j'ai dressé le tableau. OK? Puis vous irez voir par vous-même, c'est assez surprenant. Là. Le parallèle est frappant. C'est dans le même ordre, dans ces trois chapitres-là. Ben, en fait, dans 1 Corinthiens, c'est là que ça parle le plus long. OK? Ça couvre trois chapitres. Chapitre 12, ça parle d'unité, diversité, mais chapitre 13 et 14, on peut dire que c'est toute voie à la maturité. Okay, la question de l'amour, mais aussi quand il exerçait les dons, au lieu d'être là puis faire un show. Puis... Mais non, tu sais, c'est pour l'édification. Toute l'idée de l'édification est amenée au chapitre 14. C'est ça l'idée de maturité. Je fais pas les choses pour moi-même, mais pour édifier les autres. OK? Maintenant, on a commencé en regardant une expression ici, Dieu peut nous rendre capables. OK? Et là, c'est là que ça devient intéressant, avec tout ce que je viens de dire sur les grâces de Dieu, les différentes choses que Dieu peut faire à travers une église comme la nôtre. Quand ça dit « rendre capable », c'est-à-dire il y a cette unité, cette diversité, cette maturité, qui est suffisant pour ces choses? C'est Dieu qui nous rend capable. Dieu est suffisant. Et le mot qui est utilisé, ok, je vous l'ai dit tantôt, c'est le mot « katharizo », ça ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais c'est un mot grec qui réfère, je vous le dis ici, bon, des fois, c'est traduit « rendre capable »,« équiper », OK, différentes façons. Mais l'idée, c'est que c'était l'idée d'ajuster, d'équiper, de préparer. OK, par exemple, un docteur prenait cette expression-là, « je vais catharidiser l'os brisé ». OK, ça voulait dire de réparer. Pour réparer un os, c'est ce mot-là qu'il prenait. OK, pour un matelot, pour tout préparer les voiles, OK, pour être capable de partir en voyage, il catharidisait le bateau. OK, il préparait le bateau pour voguer. Les soldats se catharidisaient pour la bataille. OK, il se préparait à la bataille, il s'équipait, il n'arrivait pas là avec un manche à balai, là. Fallait qu'il soit là avec leur armure, puis là, il était catharidisé, c'est l'idée d'être équipé, d'être prêt pour la bataille. Et je pense que le plus populaire, parce que ceux qui ont peut-être entendu parler de ce mot-là, hein, qui est souvent utilisé, c'est pourquoi on entend souvent parler, parce que dans la Bible, il y avait des pêcheurs, c'est sin, puis pêcheurs, okay, ceux qui vont à la pêche, comme Pierre, Jean et compagnie, okay, ils prenaient ce mot-là pour catharidiser leur filet. Ils catharidisaient leur filet. Ils réparaient leur filet. Okay? Donc, vous voyez, c'est quoi l'idée du mot? Hein? Réparer, équiper, préparer. C'est ça qui est communiqué par ce mot-là. Okay? Puis là, je prends le temps de vous expliquer pourquoi. Parce que c'est la clé pour une église qui avance dans l'unité, la diversité, et la maturité. C'est une église qui se catharise, qui exerce. On vient à l'église, des fois, on est amoché, on a des os brisés. L'église s'est faite, puis c'est ça, avec les dons, on peut exercer un ministère les uns vers les autres, réparer les os brisés. Dans le voyage de la vie, on lève les voiles, puis on s'aide dans. C'est se préparer pour le voyage en levant les voiles. On est dans une guerre spirituelle, puis à l'église, avec les différents dons qui se complètent, on a l'armure de Dieu, puis on voit ça dans Éphésiens, mais on s'aide dans l'église locale, dans ce combat spirituel. Et on est des pêcheurs d'hommes, on va pour essayer d'atteindre les âmes pour le Seigneur, mais c'est quoi? Des fois, il y a des trous dans nos filets. Je veux dire, le témoignage qu'on a n'est pas tout le temps comme il devrait, mais... On a l'église locale, puis avec les différents dons, dans l'unité du Saint-Esprit, avec les dons qu'on a, puis la maturité, on va arriver à être efficace dans notre évangélisation. C'est à ça que ça sert une église. OK? Maintenant, j'ai tout dit ça, et je conclue avec la pensée suivante. Si on retrace ce mot-là, catharizo, dans le Nouveau Testament, on voit quatre instruments, quatre façons par lesquelles on peut spécialement catharidiser. OK? Je vais vous les dire, on va en regarder un ce soir, puis la prochaine fois, peut-être qu'on va en regarder d'autres, mais je vais vous donner les références. OK? Quatre outils que le Saint-Esprit utilise pour amener l'unité dans la diversité et la maturité dans une église. D'abord, la parole de Dieu. Tu sais le fameux passage qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, puis tout ça, puis ça dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et catharidisé à toute bonne œuvre, propre à toute bonne œuvre, prêt pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. » OK? La parole de Dieu. On va parler de ça dans un instant. la communion de l'Église locale. OK? Dans Éphésiens, ça dit qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Tantôt, j'avais oublié évangélistes, pasteurs, docteurs. Pour le perfectionnement des saints, pour le catharisage. Là, je suis pas mal. Je pense que je ferais virer les apôtres dans le ton, comment j'utilise le grec. Mais vous avez l'idée, hein? Pour le perfectionnement des saints, catharizo, OK? Justement, c'est le pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. OK? Donc, la communion fraternelle en Église est un outil que le Saint-Esprit utilise pour faire ce ministère. La prière, mes amis, la prière, dans 2 Corinthiens, je vous lis 13-9, Paul prend ce mot-là et je vais vous lire 2 Corinthiens 13-9. « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans notre prière, c'est votre catharisonnement, votre perfectionnement. » OK? On demande à Dieu de faire ça chez vous. Puis ici, il parle à l'Église. C'est la prière de Paul. Puis dans la prière, on peut faire ça. On prie pour quelqu'un, il y a de la misère, des affaires. Bien, dans la prière, on peut exercer ce ministère-là. Quelqu'un qui a le don de compassion va souvent être très motivé par rapport à il entend quelque chose, il va, le Seigneur va y mettre à cœur, puis tout ça. Puis je pense qu'on devrait tous prier les uns pour les autres, là, mais comprenez-vous, souvent ça va aussi avec des dons, comment le Seigneur travaille. Et finalement, savez-vous, êtes-vous prêt pour celle-là? Ce ministère du Saint-Esprit est exercé à travers la souffrance. Mes amis, je pense que c'est timely ce qu'on considère ensemble. On en a besoin comme Église. On est dans des temps difficiles, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance pas tant comme on s'attendrait, mettons, là, des soldats dans les rues, puis des pas le droit de venir à l'église. Il y a de la souffrance intérieure, beaucoup. Moi, je vous dis, j'ai trouvé ça dur ces derniers temps. Puis j'ai une famille, puis on s'aime, puis... Mais c'est quand même... Faire sens de tout ça, puis c'est de toutes ces choses-là, c'est pour ça que Dieu nous a donné une église locale. La souffrance, regardez ce que ça dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Ah, ça, c'est un excellent verset. Venez avec moi là, parce que c'est vraiment tout qu'un beau verset de la parole de Dieu. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, dans le processus de la souffrance, Dieu nous perfectionne. Dieu lui-même nous perfectionne. Et l'Église locale, c'est pour ça comment qu'on a besoin de l'Église locale. Puis du corps de Christ en général aussi, mais on a besoin de l'Église lorsqu'on souffre. Parce qu'on n'est pas complet. On est un peu comme avec un membre brisé qui a besoin d'être réparé. Ça fait mal. Et Dieu nous a donné l'Église locale pour ça. Donc ça, c'est les quatre outils que le Saint-Esprit, quand on voit avec ce mot-là, c'est dans ces contextes-là que le mot est utilisé. Maintenant, dans 2 Timothée, pardon, quand ça dit que la parole de Dieu nous a été donnée afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. C'est pas exactement le mot catharizo, c'est un mot dérivé, exarizo, mais c'est la même idée. Et je veux juste amener un point par rapport à ça. En plus, je n'ai parlé un petit peu ce matin. Le ministère de la parole de Dieu. Vous savez, le ministère de la parole de Dieu dans une église ne se limite pas, ne devrait pas se limiter au temps de prédication comme on a en ce moment. Le ministère de la parole de Dieu, c'est central dans l'exercice de chacun des dons. Quand on étudie les dons dans le contexte du Nouveau Testament, c'est différentes façons de proclamer, d'édifier les autres à travers la parole de Dieu. Par exemple, celui qui exhorte, il exhorte pas selon ses bonnes idées à lui, puis non, selon la parole de Dieu. Celui qui a le don de prophète de proclamer fortement quoi? Pas ses opinions, la parole de Dieu. Celui qui a le don de secourir, il va secourir en lien. Il faut qu'il soit rempli de la parole de Dieu, parce que le danger de quelqu'un qui a le don de secourir, il peut aider quelqu'un dans son péché, mais s'il est rempli de la parole de Dieu, il va l'aider à aller à trouver Christ là-dedans. Il va exercer la parole de Dieu, même si ce n'est pas avec ben des mots. La parole de Dieu qui le remplit, c'est ce qu'il donne à l'autre, en action. OK? Et étudier le contexte du Nouveau Testament pour tous les dons, ça s'exerce selon la parole de Dieu. C'est le barème, c'est le canon, on dit le canon des Écritures, la règle par laquelle tout est mesuré dans l'exercice des dons. Pourquoi? Parce qu'il est donné le même esprit qui donne les dons, c'est lui qui a donné la parole. Ça va tout, ça forme un. L'esprit qui nous a donné la parole, il nous dirige selon la parole, parce que c'est Jésus le dit, le Saint-Esprit, quand il va venir, il va vous diriger dans tout quoi? La vérité de la parole. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit ce soir, c'est fondamental ce dont on parle, et c'est fondamental pour un temps comme le nôtre en ce moment, l'unité, la diversité, la maturité. Et oui, l'unité, c'est l'unité de l'esprit, ça vient de l'esprit, c'est dans la diversité de nos dons. Mais la maturité, puis comment ça va s'exercer. Des fois, c'est dur, ça passe pas tout le temps comme dans du beurre. Là. On est différent dans l'église, puis tout ça, puis des fois, ça va moins bien que d'autres. Ça, c'est la parole de Dieu qui va faire passer ça. La maturité de la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs, dans toute sa richesse. C'est ça qui fait toute la différence. OK? Et d'ailleurs, si vous demandez, ouais, mais comment je fais pour exercer la parole de Dieu? Bien, la parole de Dieu est bonne pour instruire, pour reprendre, pour corriger. Attends, je me suis trompé, là. Je l'avais pas. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. OK? Puis ça, savez-vous quoi? Dans l'exercice des dons spirituels, quand une église est là où elle devrait être, ça va se faire. Je disais tantôt, ça va être christocentrique. Et c'est qui le personnage central des Écritures? C'est Christ. Voyez-vous comment tout ça, ça se tient ensemble? Il n'y a pas de contradiction. Tout se tient ensemble. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est juste Dieu qui peut faire ça dans une église comme la nôtre. Et mes amis, je pense que plus que jamais, on a besoin de prier, de voir ça. Je parlais avec un frère pas plus tard que cet après-midi. Je disais, frère, plus que jamais, je suis convaincu qu'on a besoin d'un réveil. Puis un réveil, c'est quoi? C'est revenir à Christ. Un réveil, c'est le Saint-Esprit qui a la liberté, le Saint-Esprit qui a la liberté d'agir comme lui, il veut. C'est, comme dirait M. Côté, c'est le contremaître de l'Église. C'est lui qui dirige. C'est Jésus qui a envoyé son esprit. Puis il habite dans les enfants de Dieu. Un réveil, c'est quand on revient à cette essence-là, à cette base-là. Et donc, que ce soit notre réflexion par rapport au repas du Seigneur, on s'arrête avec l'œuvre de Christ qui a complété sur la croix. On se rappelle qu'il a donné sa vie. Lui a été maudit sur le bois pour que nous, on ait la bénédiction du salut, qu'on ait la rédemption. Lui a versé son sang, lui innocent, pour nos péchés. Mes amis, il n'y a pas rien de plus merveilleux pour nous unir. C'est ce que le Saint-Esprit nous ramène tout le temps. Puis dans tout ça, ça nous ramène encore plus à la base. L'unité qu'on a à la croix, le Saint-Esprit nous ramène tout le temps là. Donc, que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs.